saluer quelques-uns d'entre vous, mais à chaque... Et vous entendez là? Alors, attendez. Ça y est, voilà, là ça doit aller. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes tous parentés avec un ou une qui mène la vie contemplative. Probablement un bon nombre d'entre vous sont les parents, comme tels. Alors, je ne peux pas ne pas penser à mes propres parents. J'ai reçu deux, et je suis persuadé qu'ils sont dans la même attitude, je pense vraiment. Ils sont l'autre décédé, je pense, auprès du Seigneur. Mais au fond, pour moi, c'est vraiment mes premiers prophètes. C'est très différent l'un de l'autre, très très différent. Vous et notre famille, et ils ont été vraiment des prophètes pour moi. De naître dans une famille chrétienne, puis d'avoir des parents qui montrent l'agneau de Dieu, et qui nous laissent partir à la suite de l'agneau de Dieu. Donc, vient d'être dit, je voudrais, dans les rencontres que nous allons avoir, vous parler des béatitudes, mais je pense que vous connaissez très bien cet évangile. Mais l'apôtre Philippe, veille de sa passion dans les derniers grands moments de Jésus, et dit « Depuis si longtemps je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. » Moi, on peut se dire ça, on croit peut-être connaître la parole de Dieu, les paraboles, inépuisable, qui est toujours au-delà, bien au-delà et infiniment au-delà de ce qu'on peut en dire. Et plus on s'approche de lui, plus les saints nous disent qu'il est toujours au-delà. Donc on va entrer dans ce chemin des béatitudes, vraiment les relire l'évangile avec vous. C'est l'évangile qu'on entend le jour de la Toussaint, début du chapitre 5 de saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Prenant la parole, il les enseignait en disant « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, quand contre vous toutes sortes de choses à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les... » Attirez votre attention sur trois choses. Première, on est au début de l'enseignement de Jésus. C'est le mot refrain. Pendant ce carême, méditez ensemble, et par groupe aussi, par petit groupe. Peut-être que dans la deuxième partie de cette lettre, il y a cinq attentes. J'attends ceci. Première attente, là où il y a des religieux, ça nous interroge quand même. Je pense que ce n'est pas réservé aux religieux. Pas aux religieux dans l'évangile. Pas encore des religieux et religieuses chrétiens. Ça s'adresse à toutes les foules qui sont là. Et donc, au fond, pas de la foi. Vous avez peut-être lu ce très très beau livre d'Auguste Valencin qui voit dans la foi. C'est son... Donc, un saint triste est un triste saint. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Joyeux message, comme on dit aussi. Si nous cueillons cette bonne nouvelle au fond de nous, nous vivrons des épreuves. La joie de la foi vient éclairer ce qui est de l'ordre du bonheur comme que ce qui est de l'ordre. Un peu fort quand on pense que quelques heures unies, donne ma joie, donner sa vie là complètement, c'est l'heure où ils valent tout à coup. Donc, première chose qui me semble importante pour nous, porteur de cette... La deuxième chose, c'est que toutes ces béatitudes sont au pluriel. Donc que ça aussi, pour nous, jamais dans l'évangile, Jésus va dire « heureux » comme si programme, on ne pouvait... Il ne pouvait se déployer complètement, ce bonheur, que dans la multitude, que pour le pluriel. Ce n'est pas un petit bonheur pour moi, seul. C'est un bonheur pour tous. Et tant que tous ne sont pas dedans, quelle pudeur chez une apostrophe. Ah, ça serait une injure de dire à quelqu'un heureux. Puis, la troisième un petit peu remarque en guise d'introduction, au fond, ce bonheur ne se gagne que dans l'ordre. Il est ordonné quelque part. La joie chrétienne, elle est dans un cheminement ordonné. On ne peut pas sauter une étape quelque part. L'intérêt de montrer comment termine. Jésus commence par « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux d'Avis ». Et arrive à la septième place. Elle est déjà à la première, mais dans la couleur de la pauvreté. Aussi dans la seconde, avec la troisième. Et elle va culminer à la septième place. C'est un cheminement. Jésus nous fait cheminer. Maintenant, je vous propose d'entrer dans cette première béatitude qui est « Le royaume des cieux est à eux ». Incisif. Heureux, vous, les pauvres. La relation est plus heureux, les pauvres de cœur. C'est la première étape. Avec les pères de l'Église, dans leur exégèse, est très attentif à tout, et également à l'énoncé lui-même, à l'ordre dans le cœur. Il faut bien sûr éviter un malentendu, parce que quand on, dans le langage courant, pauvre, n'accroche pas à ce mot-là le mot bonheur. Il le fait. C'est-à-dire que dans le langage, ce n'est pas la misère. Misère déshumanise. Pauvreté est un bien. Sinon, Dieu porte une stabilité, une conversion de vie. Plus, bien sûr, la part, c'est à partir du XIIIe siècle. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'est-ce que le droit canonique dit d'un vœu. Eh bien, la définition du droit, dans le droit canonique, le canon 1191 du code de droit canonique dit ceci. Le vœu, c'est une promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur. Donc, le vœu de pauvreté inclut cela, le meilleur. Surtout quand on rapproche ça d'une autre parole de Jésus. Quand Jean-Baptiste s'interroge quand même sur... des gens lui disent, mais enfin, es-tu bien celui qui doit venir ? Bonne nouvelle est annoncée. Et la bonne nouvelle est annoncée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour accueillir cette bonne nouvelle, sinon c'est pas une bonne nouvelle. Vous voyez que on prend de la distance par rapport à une mondaine de la pauvreté. Dans l'évangile, non. Alors, je vais garder quelques grands exemples. Le premier, qui est une figure d'Abraham, père à tous quelque part, père des croyants, et de ces jours-ci, Jésus a vu mon jour et il s'en est réjoui. Bien, Abraham, il a quitté son pays. Lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Dans ce placement, les chrétiens, on est des voyageurs. Abraham, c'est un grand voyageur. Regardez qu'en fait, ce n'était pas quelqu'un de pauvre économiquement parlant. Mais il a quitté son pays et il est parti sans savoir. Pour répondre à l'appel de Dieu, sans savoir où il allait. Il a décroché de ses sécurités, d'une certaine manière. Et pour adopter la grande sécurité, qui est aussi la nôtre aujourd'hui, heureux ceux qui croient sans avoir vu, va dire Jésus. Heureux ceux qui croient. Heureux. C'est aussi une... Puis, à la charnière, on a ce que le père Albert Gelé, et les figures qui apparaissent là, ben, c'est manifestation de Dieu. Et ben, Pierre va dire, et nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera notre part? Dans le texte des biens. Heureux si l'on vous persécute. Donc, les disciples vont devoir... qui est un peu le texte de référence pour les religieux. C'est le texte sur lequel le pape Jean-Paul II a bâti toute son exhortation apostolique via l'appel du jeune. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Prends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. C'est un homme droit. D'ailleurs, on dit, Saint Marc dit, qu'il y a beaucoup de droiture chez cet homme. De quitter ce qui encore le rattachait, vous voyez. En fait, je disais, mais il faut bien reconnaître que quand on est très assis dans les biens qu'on peut avoir, bien de mon père qui... J'ai une sœur. Beaucoup de choses au moment de la guerre.
Pas de rentrée, je ne sais pas.
Habituellement dans les richesses. Alors, c'est vrai. Il faut peut-être déjà poser la question. Est-ce qu'il était pauvre? Comment?
Il n'avait pas de carte bleue.
Non, il n'avait pas de carte bleue. Non. Alors, il y a des passages de l'Évangile qui mettent ça. Il se passe justement aller chez un tel et demander lui la salle où nous pouvons nous retrouver pour célébrer la Pâque. Enfin, et que pour pouvoir aller, ben voilà, aller chez un tel, tout, et puis préparer tout ce qu'il fallait. Et puis il avait, l'Évangile le dit, l'homme qui suivait Jésus et les événements devait bien s'occuper d'eux. Vous voyez, comme quoi, quand, on a le tort, je crois, le tort finalement, d'entendre le mot pauvre, en général, très vite, et presque exclusivement du côté économique. Bien qu'on peut d'ailleurs tomber, c'est un peu, ça pourrait être un risque, de certains, même chrétiens, dans une espèce d'idéologie de la pauvreté, finalement n'est pas chrétienne. Inviter le rabbin, le rabbi de Nazareth, Simon, le pharisien au chapitre 7 de Saint Luc, invite Jésus à dîner chez lui, vous savez, c'est là qu'à considérer, on était honoré de sa visite, tellement dans notre langage, les pauvres, qui on peut s'adresser. Ils ne savent même pas les droits auxquels ils ont, souvent. Donc, peut-être que parmi les évangéliques, les évangélistes, celui qui nous parle le mieux de la pauvreté, alors qu'il n'en parle jamais, quelle était la pauvreté de Jésus? Il utilise le mot pauvre uniquement dans la bouche de Judas. C'est intéressant. Que Judas pensait que plutôt de gaspiller ce parfum que Marie va répandre sur Jésus, et on aurait mieux fait de le donner aux pauvres. Et Saint Jean le dit parce que c'était un voleur et qu'en fait il prenait. Jean nous laisse. Mystère de la pauvreté. Il nous rapporte ce que Jésus dit de lui-même. Je ne fais rien, que je ne dis rien que ce que j'entends du Père. Autrement dit, Jésus est en état de totale réceptivité. C'est le fait qu'il se reçoit entièrement de son Père. Père Urs von Balthasar, il est d'entre nous, de nos parents, qui eux-mêmes viennent de leurs parents, etc. Et ultimement du Seigneur, sommes donnés. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, va dire Paul. Qu'as-tu que tu... Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Si nous le recevons, c'est pour le donner. C'est-à-dire, on entre dans une sorte de circulation de l'amour et des biens et des dons. Là où est ton trésor, là est la montagne. Petite parabole, ça veut dire chercher pour comment dire. Parce qu'il faut bien parler avec des mots. Dire l'indicible. Dire, vous avez dans le ciel un Père qui vous aime. Dans l'attitude qui est là. Jésus a dû chercher les mots. Il a toutes ces petites paraboles. Finalement, échoué. Le ventre total. Il a raté. Dans son intention parfaitement sainte et droite. Et ça passe aussi par là. Là, dans sa manière de parler, il va dire entre autres, la petite Paul, le royaume des cieux est semblable à aller dans un champ qu'un homme vient à trouver. Il le recache et s'en va ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède, et il achète le champ. Là, ravi de joie, il achète le champ. Où le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en perles fines. Ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait. Alors, il semble que... Ah, brutalement. Au fond, il ne dit pas d'abord... Ce qu'il dit, le trésor... Ça a été une de mes plus grandes joies de ma lectio divina. Senti monter dans mon cœur et qu'il ne venait pas de moi, qu'il fallait lire le texte comme ça. Elle, lui, de condition divine, de riche qu'il était, pauvre, enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Pauvre pour acheter, nous met dans une joie extraordinaire. Dieu a fait ça pour nous. Nous valons chacun le sang du Christ. Aux yeux de Dieu. Unique. Pour prendre cela, unique. Chacun parlera aussi dans les béatitudes. Malheureusement, la perle que nous de temps en temps. Hein. Et aujourd'hui, je voudrais vous laisser, nous sommes un trésor. Et de ne pas se considérer comme ça, c'est faire injure à Dieu. Mais, libre arbitre, hein, et donc, de travers, perle de son éclat. Mais, on va les retrouver, tout ce symbole des pierres précieuses. Les murs, nous avons notre place, nous est réservée dans les cieux. On ne se dire cela, parce que vous voyez, la vie commune dans le mariage n'est pas non plus toujours facile. Mais justement, nous montrons par notre feu, non seulement c'est possible, Ça, ça annonce le royaume des cieux. C'est dans la conversion du cœur que nous avons à voir. Qui est à côté de moi, il y a autant de prix que moi pour Dieu. Oh, le prix de Dieu. Quelle qu'ait été son histoire, quoi qu'il fasse, non, ça va très très loin. Moi, est-ce que j'ai honneur quand même pour eux? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de leur petit bébé? Éduquer, on dire dans la liberté des enfants de Dieu. L'âge de parents, Charles Péguy dit que le beau métier du monde. Le beau métier du monde, il dit ça à un moment. C'est de Dieu, quoi. Il nous donne son Esprit Saint pour qu'on puisse aimer comme lui aime et pas moi. Parce que l'Esprit Saint, on l'a dans le cœur. Dieu même. Je pense que, vous voyez, c'est quand on a eu dans une famille reçu de l'amour, parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'il va aimer? C'est l'amour qu'il va recevoir. Même l'éduquer, quoi, ou le mettre. Une maman qui a son bébé, c'est son trésor. Pour nous, nous sommes le trésor de Dieu. Alors, ça se passe, c'est que justement, s'il est ainsi éduqué, le petit va s'éveiller à cet amour extraordinaire. Et il va le rendre, parce qu'il va comprendre qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'entrer dans cette circulation de l'amour. Mais si, hélas, il n'a pas eu ça, loin de cet amour, très bien. Énorme responsabilité, regard qu'on porte sur nos semblables, et pour le regard qu'on porte sur les choses, je pense que, quelque part aussi, première béatitude, l'existence du Seigneur comme réceptif, et donc de la nôtre aussi, et que, non seulement sur les personnes qui nous entourent, les choses que nous avons, c'est interdit de gaspillage, c'est interdit, passe. Est-ce que, je ne vais pas m'amuser, aujourd'hui, contexte planétaire, conduite que nous avons, nous, dans l'hémisphère nord, il y a quelque chose à voir avec la conduite qui se passe dans l'hémisphère sud. Si on gaspille au nord, c'est tous les drames, les informations inadmissibles. Bon, ce genre de choses. Hein. Donc le bien, une sorte d'interdit de gaspillage. Ce contraire, peut-être, d'ouvrir les mains. Et on a une très belle expression en français, quand bien, Dieu a le... pour nous rendre heureux, en retour, nous faire place à la gratuité. On est dans l'amour monnayable, toujours perdre du temps. Perdre son temps pour Dieu. Du père Yves de Montcheuil, qui était un jésuite, les exigences du royaume. Jamais fini de tout laisser. Au jour le jour, tous les détails de l'existence doivent être inspirés par une charte. Nous avons tout vendu pour entrer en possession de la perle. De nouveau, c'est à chaque pas, chaque acte, que notre vie perd son sens. Au cas où la charité. Les paraboles de la perle, du trésor, nous révèle une des exigences les plus profondes du royaume. Le royaume n'est pas quelque chose qui puisse être simplement surajouté à notre vie personnelle, même en prenant encore une grande part de notre pensée et de notre activité. On a le vrai souci du royaume que lorsque ce souci, il ne souffre pas le plus. Il n'est pas quelque chose que l'on possède à moitié ou à quoi l'on fait une part. On ne le possède que lorsque tout a été établi. L'homme qui a trouvé le trésor va vendre tout ce qu'il possède. L'homme qui veut acquérir la perle va vendre tout ce qu'il possède. Autrement dit, la vie chrétienne, dans son principe, ne connaît pas de partage. Elle n'est réelle que lorsqu'elle prend contre de tous les autres modes de vie. Pour la vie intellectuelle, la vie esthétique, il y a un dosage à établir. Il n'y en a pas pour la vie religieuse. Celle-ci n'exclut pas les autres. Mais elle est d'un autre ordre. Elle ne peut pas se juxtaposer à elle. Il faut que, prenant tout l'homme, elle pénètre ses autres modes de vie. Il n'y a vie religieuse authentique que là où cette vie tend à tout envahir. Elle a tout envahi, bien que la perfection n'ait jamais atteinte sur terre. Soyons heureux du moindre pas accompli. Mais dans la tendance, dans l'orientation de base, sachant qu'il n'y a pas de compromis possible. Il y a un exclusivisme de Dieu. Seulement, cet exclusivisme ne s'exerce point à la manière des exclusivismes humains. Dieu n'est pas une réalité créée, occupant dans l'étoffe de l'être une place, dont, par son existence même, toutes les autres réalités créées. La présence de Dieu ne chasse pas l'humain. Elle le pénètre, et l'humain doit se laisser pénétrer tout entier. Il doit se laisser, pour ainsi dire, enlever à lui-même. La présence de Dieu dans son exigence exclusive est conciliable avec tout ce qui, de la création, n'est pas atteint par le péché. Condition de tout renouveler. Ne possédons Dieu que lorsqu'il pénètre en nous tout le reste et que par conséquent, nous acceptons de ne plus posséder rien. Dieu, c'est-à-dire pour entrer dans le royaume, il nous faut donc renoncer à toutes les autres choses pour elles-mêmes. Guérir la perle, le royaume est quelque chose que... Parce que je me suis dit que vous êtes sans deux par deux dans plusieurs cas. Et que deux ne font qu'un, n'est-ce pas?